France Inter. France Inter. Le 18-20, Éric Delvaux.
Une semaine en France consacrée ce soir à la place de l'arbre dans l'espace urbain, alors que les villes rivalisent sur le nombre d'arbres qu'elles veulent planter en une seule décennie. Quelques dizaines de milliers d'arbres à Rennes et à Strasbourg, 170 000 à Paris, 200 000 à Marseille, 300 000 à Lyon et carrément 1 million pour Bordeaux métropole. Et je ne vous parle pas du président Macron qui ambitionne de faire planter 1 milliard d'arbres avant 2032. Alors nous verrons l'utilité de ces plans arbres, quels bienfaits ils apportent en ville, mais nous verrons aussi que le chiffre ne fait pas la valeur du projet, encore faut-il rendre ces plantations pérennes, et on verra tout à l'heure à quelles conditions. Et puis nous serons dans un instant avec un amoureux des arbres qui connaît leur terre natale, l'origine de leur nom et les différentes couleurs des feuilles. Rendez-vous avec Alain Baraton, le jardinier en chef du Grand Parc de Versailles. Et puis je vous renvoie à son dictionnaire amoureux des arbres paru chez Plon. Alain Baraton, notre invité dans la deuxième demi-heure. L'émission s'appelle Une semaine en France. Ce soir, on va écouter les arbres. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h.
Éric Delvaux, le 18-20.
Avec un premier témoignage en duplex de Bordeaux, car la métropole de Bordeaux, avec ses communes voisines donc, a lancé le plan 1 million d'arbres et ça fait partie d'une vaste opération de végétalisation de l'espace urbain bordelais. Bonsoir Didier Jean-Jean.
Bonsoir.
Vous êtes l'adjoint au maire de Bordeaux en charge de la nature en ville et des quartiers dits apaisés. Alors, 1 million d'arbres plantés avant 2030 chez vous, c'est l'objectif de ce plan. On est à mi-parcours, quel bilan d'étape dressez-vous aujourd'hui ?
Alors, le bilan d'étape est plutôt positif, puisqu'aujourd'hui, on remarque vraiment un changement dans l'aménagement des espaces publics, avec vraiment une volonté de renaturer, je dirais plus que planter des arbres. Donc, les premiers constats sont très positifs, mais je voudrais tout de suite ajouter que la quantité n'est absolument pas un objectif. Évidemment, c'est facile à lire et facile à comprendre quand on parle d'un million d'arbres, mais la nécessité, c'est surtout la qualité. C'est surtout comment on va réfléchir à la façon de planter nos arbres, c'est quelles essences on va planter, d'où viennent ces arbres, que vont-ils devenir. Enfin, c'est surtout la qualité plus que la quantité.
On en parlait justement, et cette qualité des arbres, chez vous, quelles essences avez-vous choisies justement ?
Ben en fait, c'est très intéressant parce que les essences sont multiples. La première chose qu'on pourrait dire, c'est qu'on ne plante plus en monospécifique. Les alignements d'arbres militaires tels qu'on l'a connu quelques années auparavant, ça c'est terminé. Donc la première chose, c'est surtout de travailler une diversité. La deuxième, ben, ça dépend de chaque endroit. En fait, puisque maintenant nous plantons dans l'espace public, ce qui était avant un parking, un délaissé de trottoir, un délaissé de voirie, demain va devenir un espace renaturé. Donc s'il y a la place de planter un arbre, si le sous-sol permet de planter un arbre. Si l'environnement le permet, ben ensuite, c'est en fonction. Sur la place de l'hôtel de ville, on est sur un marbre noir, très chaud, très compliqué. Ben là, on a adapté une essence particulière. Dans d'autres endroits plus humides, on aura d'autres essences. Il n'y a pas une règle précise.
Est-ce que toutes les communes du Bordelais jouent le jeu pour planter des arbres ?
Alors, vous savez, le fait initial, c'est de faire de l'espace dans l'espace public, c'est-à-dire d'aller grignoter à ce qui aujourd'hui occupe tout l'espace, à savoir globalement la voiture, ou le stationnement, ou la circulation. Et donc, il y a certains courants politiques qui sont prêts à jouer ce jeu-là, d'autres qui le sont moins. Donc, d'une commune à l'autre de notre métropole, l'ambition n'est pas la même.
Mais alors, expliquez-nous ça, parce que la plupart des réticences pour planter des arbres viennent des automobilistes. Pourquoi la circulation devient-elle plus compliquée à Bordeaux quand il y a plus d'arbres ?
Ben en fait, si vous voulez, dans une rue qu'on veut rafraîchir ou dans laquelle on veut augmenter la biodiversité, ben il faut faire un peu de place au sol vivant. Ça, c'est le premier impératif. Et une fois qu'on a fait de place au sol vivant, là, on peut imaginer de planter, on peut traiter le cycle de l'eau. Mais pour avoir ce sol vivant, ben, il faut le prendre à du stationnement, par exemple, ou à une poche de parking où il y avait 8, 10, 12 voitures. Il faut transformer ça en square, en jardin. Et là, évidemment, ça questionne la place de la voiture. Et si tout le monde est d'accord pour renaturer nos villes, pour les rafraîchir. Quand il s'agit d'aller devant son paillasson, dire ben, « je vais me garer à 200 mètres » ou alors « je vais devoir faire appel à un autre mode de transport », là, ça devient plus compliqué. Mmh. Et c'est là que la ligne politique fait la différence. À Bordeaux, Pierre Urmic a une ligne politique où ça a été très clair. Dès le début du mandat, on déclare l'urgence climatique. Et ça, ce ne sont pas des mots, ce sont des faits. Et donc, à Bordeaux, on plante des arbres, quitte à réorganiser la circulation.
Parce que ce plan fait aussi partie d'un vaste plan baptisé Bordeaux Grandeur Nature. Tous ces projets sont autant de réponses au changement climatique, c'est lié forcément à ça.
Exactement. Le premier impératif, c'est le changement climatique, le dérèglement climatique. Donc, le fait de remettre des sols vivants sur nos bitumes ou sur nos bétons permet d'abord, de gérer le cycle de l'eau. La ville éponge. Il faut que l'eau soit gérée in situ. Il faut arrêter de ruisseler sur la Garonne. L'objectif numéro 2, c'est d'améliorer la biodiversité qui aujourd'hui est en chute libre. Et l'objectif numéro 3 sera de rafraîchir nos villes. Et à cette étape-là, l'arbre devient un partenaire très efficace s'il est fait avec précaution et avec intelligence, réflexion.
Merci d'être venu nous l'expliquer ce soir sur France Inter. Didier Jean-Jean, donc l'adjoint au maire de Bordeaux en charge de la nature en ville et des quartier apaisé. Merci beaucoup et bonne soirée. Planter des arbres, les préserver aussi, eh bien nous partons à Langombrac, c'est à une trentaine de kilomètres de Lorient, dans cette commune bretonne. L'association Bretagne Vivante est une référence depuis 1959 en matière de protection de la biodiversité. Cette association travaille avec le Conservatoire National du Littoral pour acheter des terres bretonnes et en faire des réserves de conservation du milieu naturel. Ça concerne donc les arbres et aussi les forêts bretonnes. Reportage de Guy Vanctil.
Voilà, nous voilà dans la campagne bretonne au printemps.
Oui, tout à fait. On est dans les Landes de Langombrac, sur la commune de Landol, dans le fin fond de la rivière d'Étel, qui est une zone remarquable. On est en zone Natura 2000, c'est pas très très connu, c'est vrai qu'on est, on est un peu loin de la côte, même si la mer est présente un peu partout ici. Il y a des bras de mer qui rentrent à quelques dizaines de kilomètres dans les terres. Là, on est dans le domaine maritime.
Ah ouais?
Ah oui, on est dans le
domaine. On est dans la forêt, mais on est dans le domaine.
Voilà, c'est cette particularité, la mer interpénètre la forêt, et ça donne des paysages qui peuvent être assez étonnants. On va voir du pré salé à côté de la forêt.
Ah, c'est joli, là, on arrive dans une trouée.
Voilà, c'est ce que je voulais montrer. On va aller même plus loin, vous allez voir. Alors, oui, moi, je suis Noël Bayer, oui. Botaniste bénévole dans l'association Bretagne Vivante, administrateur de Bretagne Vivante aussi. Notre but, c'est de participer à la connaissance des espèces qui vivent ici dans le but de les protéger. Voilà, avec beaucoup d'implications sur les projets et sur les zones à conserver dans la région de Lorient.
Ah là, ça y est, on voit à gauche, là derrière, encore des pins. Oui. Ah non, il n'y a pas que des pins maintenant, il y a un peu plus, c'est des chênes.
Alors,
ça
là, on va tomber effectivement dans du chêne, qui sont plus naturels ici que le pin.
En plein dans une zone que vous autres, vous voulez préserver.
Tout à fait, c'est une zone qu'on voudrait voir effectivement rachetée par le Conservatoire du Littoral. En fait, c'est un pic, je pense que c'est un pic épêche qu'on a entendu là.
Ouais. C'est impressionnant comme bruit quand même, c'est fort.
Oui. Voilà, bon, c'est de jolis milieux.
C'est des jolis milieux, surtout en cette saison là, parce que tout est en train de repartir, donc on voit toutes les nuances de vert.
Ah oui, effectivement, là, à cette époque-là, les verts explosent dans tous les sens, effectivement. Si on faisait un inventaire botanique sur le bord de la route, je pense que sur un mètre carré, on trouverait plusieurs dizaines d'espèces. Et on a quelques plantes typiques des milieux humides, comme la lispa plantain d'eau, là.
Qui est à côté de la grosse limace.
Ouais, le lycope, ou œil de loup, la petite plante là-bas, que nous, on appelle Salix atrocinera. Et celui-là s'appelle Eryngium viviparum. Et d'autres encore, la chancière de Pneumonante, la grassette du Portugal, l'hypnoïs critica, c'est un peu latin comme nom, mais bon, ce sont des choses...
C'est tous vos copains, quoi.
Voilà.
Et c'est vrai que ça change très vite comme paysage ici. Je vois, d'un côté, on a l'impression d'être dans une pinède, après on a l'impression d'être dans un marécage, après on a l'impression d'être dans une chênaie.
C'est surtout cette mosaïque d'habitats, cette multiplicité d'habitats qui fait qu'on a une grande diversité.
Oh, c'est joli là. On voit le petit chemin qui disparaît dans un virage de verdure.
Et encore là, on n'est pas quand ça se met un petit peu à fleurir. C'est d'une beauté époustouflante. Vous avez tous les tons de rose, les différentes espèces de bruyères, les petits ajoncs qui sont en fleurs, c'est somptueux. c'est somptueux. Plante dont on n'a pas beaucoup parlé, un arbre dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est très présent aussi ici, c'est le châtaignier, qui en fait a été introduit par les Romains. La châtaigne s'est adaptée ici, mais les châtaigniers sont certainement actuellement les arbres qui sont les plus impactés par le réchauffement climatique. Et c'est là-dessus qu'effectivement on se pose de questions sur quoi planter maintenant.
C'est ça, c'est parce que maintenant, en plus de tous les changements qu'il y a eu sur la terre, avec les pratiques agricoles et les pratiques urbanistiques et les routes et ainsi de suite, qui ont plus ou moins malmené cette nature bretonne que vous cherchez vous autres à défendre, il y a aussi le changement climatique.
Ouais. Cette évolution, on le voit nous, sur les plantes en particulier, il y a des plantes qui n'étaient présentes qu'en dessous de la Loire, qu'on commence à voir apparaître maintenant par ici. A contrario, des plantes comme le chou marin, on voit son aire limite sud était dans la région, et petit à petit il remonte. Et là, c'est pas par l'homme, c'est le climat qui fait qu'il va remonter petit à petit. Hein.
On va passer par le côté là, parce que là il y a une grosse mare. Vous faites pas mal.
Vous dire qu'il aurait peut-être mieux fallu des bottes.
On marche sur des rondins parce que la terre est gorgée d'eau. On reprend des petites passerelles. Et hop, ça vous fait tiquer, ça. Ces aménagements faits dans votre forêt, là, c'est pas votre tasse de thé.
Non. On s'est même beaucoup révolté contre ça. On voit un petit ponton sur pilotis du sentier côtier qui a été réalisé pour nous en dépit du bon sens, puisqu'il traverse à cet endroit une zone où la loutre, qui a besoin de beaucoup de tranquillité, est assalée. Et il a été constaté que les travaux ont tué des loutres qui étaient dans leur cache.
Mais comme quoi, on peut, avec les meilleures intentions du monde, c'est-à-dire rendre accessible la nature aux riverains...
Vous savez, le problème à l'heure actuelle, c'est qu'il faut que tout le monde puisse aller partout. Ouais. C'est pas bon dans la mesure où cette zone-là était jusqu'ici inaccessible, sauf par quelques naturalistes...
Comme vous autres, voilà. De Bretagne vivante.
Et voilà. Mais effectivement, est-ce qu'il faut ouvrir tous les milieux à tout le monde? Pour nous, c'est pas vraiment une bonne idée.
Si on veut aimer et protéger l'environnement, bah, des fois, il faut le laisser tranquille.
Voilà, ça c'est évident qu'on ne peut pas aller partout tout le temps. Il faut laisser un peu de nature tranquille. Il faut accepter de les laisser vivre tranquillement.
Laisser vivre la nature tranquillement à Langon-Brac, donc sur la route de Bretagne. Reportage signé Guy Vanctil. Vous écoutez Une semaine en France consacrée ce soir à la place de l'arbre, notamment dans l'espace urbain. Bonsoir Philippe Clergeau.
Bonsoir.
Vous êtes écologue, professeur émérite au Muséum national d'histoire naturelle, spécialiste de l'urbanisme écologique. On l'a abordé un peu à l'instant avec l'adjoint au maire avant le reportage. Il ne suffit pas de planter beaucoup d'arbres en ville. Encore faut-il assurer une bonne croissance. Quelles seraient les erreurs à ne pas commettre ?
Si, on peut planter beaucoup en ville, c'est pas le problème. C'est l'objectif qu'on se donne qui est différent. Aujourd'hui, on plante beaucoup dans les villes. Pour un objectif essentiel, c'est réduire l'îlot de chaleur. Il faut être très clair, c'est ça l'objectif, hein, c'est une forme d'hygiénisme. Et ça, c'est tout à fait, c'est très bien, plantons, continuons à en planter plein d'arbres. Mais ne disons pas que c'est écologique ou que c'est pour la biodiversité. C'est ça que nous, scientifiques, on est plusieurs à penser qu'il y a un pas à franchir. Alors effectivement, l'adjoint de Bordeaux en a bien parlé. Hein. Il faut absolument diversifier les plantations et arrêter ces alignements d'arbres sur les boulevards qui sont... fragile pour les problèmes sanitaires, mais aussi par rapport au climat, hein, évidemment.
C'est-à-dire, par rapport au climat, il faut privilégier non pas une seule espèce, mais des espèces qui résistent mieux, par exemple, au stress hydrique, c'est ça ?
Alors, il y a ça, mais aujourd'hui, c'est vraiment en recherche, ça. Je crois qu'on se focalise, alors c'est un avis un peu personnel, mais je sais qu'il est partagé par aussi des collègues. L'idée, c'est pas de planter absolument des palmiers partout, parce que ça tient à la sécheresse. L'idée, c'est aussi de diversifier. Diversifier les espèces, parce qu'il y a des espèces qui sont plus ou moins tolérantes, c'est clair. Et aussi diversifier la source d'une espèce. Ce qu'on a démontré récemment, en génétique, hein, c'est qu'on a une très grosse variabilité des individus. Et donc, du coup, sur un ensemble d'individus qui viendraient d'une pépinière, par exemple, eh ben, on a des génomes qui sont très, très différents. Et là-dedans, il y en a qui sont tout à fait capables d'évoluer, de s'adapter très rapidement. Alors, très rapidement, hein, pour les arbres, évidemment, tout est relatif. Hein, mais en ville, le turnover des arbres est beaucoup plus rapide qu'en campagne. Et c'est une des solutions aussi, c'est de dire, on va, n'essayons pas de planter partout des espèces méditerranéennes, parce qu'on sait qu'elles tiennent plus ou moins bien la chaleur et le stress hydrique. C'est une idée, bien évidemment, mais aussi continuons à diversifier des espèces locales et surtout des origines de ces espèces complètement différentes. Et en multipliant les pépinières d'origine, on multiplie aussi les poules génétiques différentes.
Et cette diversification sous toutes ses formes que vous venez de décrire, est-ce que ça vous semble être une préoccupation politique dans les villes qui se lancent dans des surenchères de plantations d'arbres ?
Alors ouais, il y a deux choses. D'abord, on se retrouve avec un problème de patrimoine qui est évident. Il faut en parler aussi avec les architectes des bâtiments de France qui ont aussi des schémas et des histoires d'organisation de plantations d'arbres qui sont inscrites dans les patrimoines et qu'on change pas comme ça. Ça, c'est un point qu'on oublie un peu trop souvent. Alors, je parle pas des réseaux. Je crois que ça a été un petit peu évoqué par l'adjoint de Bordeaux. Il y a des zones où on peut pas planter d'arbres non plus, quoi, bien évidemment. Voilà. Donc ça c'est un premier point quoi.
Le deuxième point.
Le deuxième point c'était.
Vous me disiez j'ai deux points. On en a passé un et le deuxième. Non parce que vous évoquiez le planter des arbres en ville, développer le végétal, c'est bon pour les riverains, surtout en période caniculaire. On peut faire baisser de combien de degrés quand une rue est végétalisée?
Alors, ce qui a été démontré à plusieurs reprises, ça a été fait en été, on a des problèmes caniculaires évidents. Le même boulevard, planté ou non planté, on arrive à 8 à 10 degrés de différence. Vous voyez que c'est assez
8
énorme.
À 10 degrés selon la végétalisation de la rue.
Voilà, exactement. Alors, d'ailleurs, on le voit tout à fait, que ce soit à Madrid ou à Strasbourg, quand il fait très chaud, les gens, ils sont bien sous les arbres, on le sent tout à fait, c'est quelque chose qu'on sent.
C'est mieux que les fontaines encore.
Ah oui, c'est mieux que les fontaines. Les fontaines ont un impact qui est plus restreint que les arbres. Le problème des arbres, c'est aussi qu'il évapotranspire, c'est-à-dire que c'est par sa transpiration qu'il rafraîchit. Et donc, du coup, il a besoin d'eau pour ça. Donc, planter beaucoup d'arbres, c'est bien, mais il faut qu'on pense aussi à la gestion de l'eau qui va avec. Il ne faut pas qu'on déconnecte les deux.
Eh bien, merci beaucoup de ces explications, Philippe Clergeau. Je rappelle que vous êtes écologue, professeur émérite au Muséum national d'histoire naturelle, spécialiste donc de l'urbanisme écologique. Merci beaucoup et bonne soirée. L'urbanisme écologique, c'est le thème un peu ce soir de Une semaine en France. Des arbres en ville donc, mais pas seulement, des arbres à la campagne aussi. Et ça, c'est votre affaire. Marie-France Barrier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la fondatrice depuis 5 ans de l'association Des enfants et des arbres. Il s'agit de faire planter des arbres, aidés aussi par des enfants, à proximité des exploitations agricoles. C'est une démarche à la fois écologique et sociale. On va commencer par l'écologie. Planter un arbre à la campagne, c'est aussi très utile, ne serait-ce que pour filtrer l'eau en sous-sol ?
Oui, alors pas que, en fait. Là, on est sur les enjeux de transition dite agroécologique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accompagne l'agriculture à renouer avec le vivant dont l'arbre est un peu le chef d'orchestre et qui va par son retour, donc le retour des haies bocagères ou le retour de pratiques agroforestières où on va mettre des arbres au cœur des parcelles agricoles, donc ça va être au cœur des champs céréaliers, des espaces maraîchers, mais aussi bien sûr des espaces d'élevage, des productions de volailles, d'élevage bovin, ovin. Et donc, on ramène l'arbre comme partenaire. Alors, bien sûr, il a toutes ses vertus pour créer du microclimat, comme on l'évoquait tout à l'heure, pour faciliter la gestion des cycles de l'eau, l'infiltration de l'eau. Et puis, c'est aussi toutes ses vertus en lien avec la biodiversité et surtout la vie du sol.
Et vous trouvez facilement, comme ça, des agriculteurs qui acceptent de laisser pousser des arbres sur leurs parcelles, des arbres ou même des haies qu'ils préfèrent souvent arracher pour mieux cultiver.
Alors, il y a des tendances. Il y a eu un moment où c'est pas tant d'ailleurs les agriculteurs qui désiraient enlever les haies du paysage bocager. Ça a été des politiques agricoles qui ont été massivement financées et imposées de façon un peu violente au monde agricole pour qu'on passe à une autre proposition des paysages et à d'autres pratiques agricoles qui étaient plus intensives, plus productivistes. Aujourd'hui, beaucoup des agriculteurs vivent en première ligne les effets du dérèglement l'effondrement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Et donc, c'est pas tant nous qui allons convaincre les agriculteurs de planter, mais c'est que eux comprennent qu'ils ont besoin et que ces logiques initiales d'après-guerre, finalement, aujourd'hui sont dépassées et montrent leurs limites, et qu'ils ont besoin de l'arbre pour prendre soin de leur outil premier qui est le sol, pour protéger leurs animaux des canicules, pour leur apporter du fourrage, pour gérer ces microclimats qui sont parfois des vraies catastrophes pour les viticulteurs ou toutes les productions agricoles sont aujourd'hui soumises à ces enjeux globaux. Et donc les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à renouer doucement, soit à faire revenir les haies bocagères, soit être un peu plus innovants et conquérants et à planter au cœur de leur parcelle.
Et vous avez choisi des enfants pour aller planter ces arbres. C'est aussi pour sensibiliser les futurs adultes.
Oui, c'est ça. En tout cas, notre idée, c'est que l'arbre est aussi un extraordinaire outil et partenaire pédagogique pour mettre en lien les enfants qui seront les citoyens, les dirigeants, je l'espère, les agriculteurs et les consommateurs de demain aux enjeux de la biodiversité et du vivant. Et notre idée, notre envie, c'est aussi de les reconnecter à celles et ceux qui nous nourrissent, parce que cette transition agroécologique, elle est compliquée. Il s'agit de réorienter, de prendre un virage qui va un peu à l'encontre de ce qui a été imposé, proposé toutes ces dernières décennies. Et merci. Donc on pense que ce virage, il doit être collectif.
Merci beaucoup Marie-France Barrier, fondatrice depuis 5 ans de cette association des enfants et des arbres. Le lien est en ligne sur le site de l'émission Une semaine en France. Merci beaucoup et bon début de soirée. Une semaine en France consacrée donc à la place des arbres en ville, mais pas seulement. Il y a un grand amoureux des arbres qui va nous rejoindre dans un instant et je vous renvoie à son dictionnaire amoureux illustré des arbres. Rendez-vous dans 3 minutes avec Alain Baraton. Ce sera juste après cette pause musicale. Bienvenue sur France Inter, 18h39.
J'ai 16 ans, 15 ans, 3 quarts. Le pain qui raye le trottoir. J'ai 16 ans, de corbeau noir, cheveux vermeils et long foulard. Moi qui ne vois pas plus loin que moi, rien au-delà du bout de mes doigts. Moi qui n'entends que mes fourmillements, que le dedans de mes battements. Je t'aime, toi là-bas, je t'aime, toi là-bas, je t'aime. Je ne connais que ton nom, mais je t'aime, toi là-bas, je t'aime, toi là-bas. N'approche pas où je meurs, je t'aime. J'en ai peur, j'en ai peur de toi. J'ai 16 ans, 15 ans, 3 quarts. J'aime l'amour, la mort, le soir. Depuis mon lit, dans un mouchoir de poche, j'affabule ton corps, notre histoire. Moi qui n'ai lu que ma poésie, en deux temps maudits, je nous compose trois mouvements du symphonie, notre opéra, notre apothéose. Je t'aime, toi là-bas, je t'aime, toi là-bas, je t'aime. Je ne connais que ton nom, mais je t'aime, toi là-bas, je t'aime, toi là-bas. N'approche pas.
Je t'aime, toi là-bas, extrait du dernier album d'Albin de la Simone. Et un grand merci à Djoubaka pour la programmation musicale. La suite d'Une semaine en France. À la technique ce soir, Élise Christophe, Florian Dorimini et Fabrice Desmaz.
France Inter, le 18-20.
Et quel plaisir de vous retrouver, mon cher Alain Baraton. Bonsoir.
Plaisir partagé. Bonsoir.
Jardinier en chef du domaine national de Trianon et du Grand Parc de Versailles. Les auditeurs de France Inter vous connaissent. Ils vous connaissent même très bien pour vos chroniques de longue date dans la matinale week-end que j'ai eu l'honneur de présenter avec vous. Je vous invitais pour votre dictionnaire amoureux des arbres paru chez Plon, dictionnaire illustré. D'ailleurs, à quand remonte cette passion chez vous pour les arbres ?
Depuis toujours, je suis né dans un quartier de la Seule-Saint-Cloud qui se nomme la Châtaigneraie. Déjà, le nom du quartier m'a fortement indiqué la marche à suivre. Mais surtout de mon grand-père. J'avais un grand-père qui était luthier, donc il n'avait rien à faire avec le monde du jardin, mais il avait un potager qu'il entretenait avec passion. Et au milieu de ce potager, il y avait un prunier à quetsch. Et quand mon grand-père me parlait de cet arbre, j'étais fasciné parce qu'en me parlant de cet arbre, il me racontait tout simplement sa vie et la vie en général. Et je me suis rendu compte, finalement, quand mon pépé nous a quittés, et bien que cet arbre continuait de me parler de mon grand-père. C'est là où j'ai compris que l'arbre était bien plus qu'un morceau de bois avec de la sève et des feuilles. C'était un être vivant qui avait quantité de choses en lui, quantité de messages à nous transmettre. Et c'est de cette époque-là donc, que j'ai vraiment la passion des arbres.
Et après autant de décennies, pardon pour vous vieillir un petit peu, mais qu'est-ce qui vous émerveille encore quand vous regardez un arbre ?
Que ce sont des êtres capables de vivre des centaines d'années sans bouger. L'arbre le plus vieux sur la planète, la souche, capable aujourd'hui de produire des rejets, est un sapin qui vit au nord de la Norvège. Il est vieux de 9 850 ans. C'est pas moi qui l'invente, bien entendu. Ce sont les scientifiques. Je suis fasciné par tous ces arbres qui sont capables d'indiquer le paysage. Quand vous-même vous prenez le train, qu'est-ce qui vous permet de vous renseigner sur la destination, sur le lieu où vous êtes ? C'est généralement
la
les
végétation.
Forêts, la végétation. Quand vous arrivez du côté de Bordeaux, on entendait il y a un instant
la
joie en mer. Ben, ce sont les pins, bien évidemment. On sent la forêt des Landes. Quand on arrive du côté de Marseille, on voit déjà au printemps, par exemple, au tout début du printemps, la floraison des amandiers ou des abricotiers. Donc l'arbre est un repère de lieu, mais aussi un repère de temps. Quand vous regardez une photo, qu'est-ce qui vous permet de dater la photo dans l'année ? C'est bien sûr la présence ou pas de feuilles. Donc l'arbre est bien plus qu'un simple élément décoratif, c'est un marqueur de temps.
Et vous êtes convaincu que les arbres parlent entre eux ?
Je suis convaincu qu'ils sont capables effectivement de communiquer. Il y a un géant de la botanique qui s'appelle Francis Allais. C'est l'homme qui veut absolument créer une forêt qui serait la forêt primaire et vraiment sacrée. On n'y toucherait pas. Il a même employé le terme de timidité botanique. Je vais juste donner un exemple concret pour bien que vous compreniez. Quand vous coupez un arbre dans une forêt, eh bien, levez la tête, il y a un trou dans la canopée. Il y a un trou, on voit le ciel. Ça prouve bien que les branches ne se mélangent pas. Les arbres en hauteur ne se touchent pas pour ne pas se gêner. Et effectivement, il a été prouvé que les arbres étaient capables de temps en temps, comme les cyprès en Espagne, de limiter les conséquences d'un incendie en pratiquant l'évapotranspiration. Oui. Un de vos invités en a parlé. Il s'entoure d'une petite buée qui va lui permettre au moins pendant quelques temps
d'attendre les pompiers.
En quelque sorte. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'arbre en contact avec les flammes déclenche ce processus, mais ceux qui ne sont pas en contact avec la chaleur déclenchent au même moment le processus, comme quoi cet arbre a bien été, comment, je ne sais pas, mais il était capable de déclencher l'alerte.
Vous nous rappeliez à l'instant que les arbres étaient capables de vivre plusieurs siècles. Il y a même des arbres que l'on croyait disparus et qui réapparaissent un siècle plus tard.
Ah, c'est extraordinaire. Vous parlez certainement du Crudia zelanica.
Exactement, je l'ai lu dans ce dictionnaire amoureux.
C'est un arbre qui avait été identifié au XVIIIe siècle. Les botanistes qui étaient aux Philippines, je crois, au Sri Lanka, pardonnez-moi, découvrent cet arbre qu'ils ne connaissaient que sous l'apparence de fossiles. Ils connaissaient les feuilles fossilisées. Ils découvrent quelques sujets. Mais l'arbre est menacé de disparition. Dans les années 1900, il retourne au Sri Lanka, on n'en voit plus. Et l'arbre est officiellement déclaré comme totalement éteint de la surface du globe il y a une trente ou quarantaine d'années. Et il y a quelques années, pour construire une autoroute dans une forêt, on découvre un exemplaire de Crudia zelanica. Immédiatement, les botanistes se sont heureux, sauf que l'arbre doit être coupé, parce que l'autoroute doit passer. La population manifeste, rien n'y fait. Les botanistes manifestent, rien n'y fait. Les écologistes, rien n'y fait. Jusqu'au moment où les bonzes, parce que le pays est extrêmement bouddhique, eh bien les bonzes vont prendre fait et cause pour l'arbre, et ils vont l'entourer de la fameuse toche safran, et le faire moine. Et là, bien entendu, hors de question de couper un arbre. Le Crudia zelanica est sauvé par les moines et cet arbre, qui est à nouveau menacé malheureusement, a permis aux scientifiques de prélever quantité de graines et de le reproduire, mais on continue de découvrir des arbres, comme qu'il y a quelques années, un Volemia nobilis, qui est un grand conifère qui pousse du côté de l'Australie. On a découvert, il y a une cinquantaine d'années, en 1940 pour être plus, je vieillis, un arbre qu'on appelle le Metasequoia glypstroboides. C'est un conifère qui perd ses feuilles en hiver. Il y en a un merveilleux exemplaire au Jardin des Plantes de Paris. Donc, on continue, tous les 50 ans, de découvrir des géants du monde végétal encore présents, comme quoi, de temps en temps, il y a encore de l'espoir.
Mais Alain Baraton, quel est le doyen des arbres à Versailles ?
C'est un chêne. C'est un chêne qui vit près du Grand Trianon. Il est né sous Louis XIV, vers 1670. Il n'a jamais connu le sécateur, il n'a jamais vu la tronçonneuse. Il est dans un endroit un petit peu à l'écart. Il est contemporain de la construction du château. Il a connu André Le Nôtre, il a connu Louis XIV. Il était le cousin, en quelque sorte, du chêne de Marie-Antoinette. Et cet arbre est magnifique. Et pour être sûr que cet arbre ne disparaîtra pas, nous avons collecté quelques-uns de ses fruits, les glands, que nous avons mis en pépinière pour au moins, si demain, et je croise les doigts, j'espère que non, il venait à disparaître, on puisse eh bien le remplacer par un arbre par l'un de ses enfants.
Les arbres aussi, ils nous renseignent sur le passé. Ils nous renseignent notamment sur le temps qu'il faisait il y a des siècles.
Oui, vous coupez un arbre et vous comptez les cernes. Chaque année, un arbre produit une couche de bois. Cette couche est très visible à l'œil, c'est ce qu'on appelle les cernes. Il vous suffit donc de compter le nombre de cernes pour connaître l'âge de l'arbre. Mais en regardant la couleur de la cerne et en regardant l'épaisseur de la cerne, les scientifiques sont capables de savoir si l'année était chaude ou moins chaude, humide ou pas. Et effectivement, la météo peut également s'expliquer, pas en totalité, mais en partie, grâce à l'examen des arbres.
Des arbres donc capables de résister aux guerres, aux révolutions, mais pas toujours à la météo. Rappelez-nous quels dégâts avait subi le parc de Versailles lors de la tempête de décembre 99.
Eh bien, des rafales de vent de 172 km/h vont dans un premier temps détruire 18 500 arbres qui vont être jetés au sol, cassés, brisés, déracinés. Il faudra, dans les semaines qui viennent, en abattre 33 000 supplémentaires. C'est le drame. Parfois, si on veut planter, il faut couper. En ce moment, je dois faire couper quelques arbres, par exemple. Eh bien, ça ne plaît pas à tout le monde, mais il faut, de temps en temps, sacrifier des végétaux mal partis pour en planter quantité d'autres. Mais cette tempête aura permis, effectivement, de replanter le parc de Versailles pratiquement en totalité. Depuis la tempête de 1999, nous avons dû replanter à Versailles plus de 150 000 arbres. Et j'écoutais tout à l'heure vos invités avec beaucoup d'intérêt, et nous aussi, nous ne pratiquons pas le panachage allée par allée. Nous sommes à Versailles, et les allées se doivent d'être uniformes. La fantaisie n'a pas toujours cours dans les allées du parc, j'en conviens. Mais par contre, nous avons multiplié les essences d'alignement, et dans les bosquets, effectivement, nous multiplions, là encore, le nombre d'espèces végétales.
Il y a même les amoureux des arbres qui étaient venus quelques mois plus tard à Versailles pour acquérir aux enchères un bout de ces majestueux arbres tombés sous la tempête. Ça se monnayait cher, ça ?
Oui, cher, mais c'est la preuve que même mort, un arbre continue de vivre grâce à son bois. Pensez également aux poutres de Notre-Dame, à la charpente et ces chênes qui ont été abattus. Mais aujourd'hui, on rêve tous d'avoir du bois autour de soi, des manches en bois, des planchers en bois, des portes en bois. Et le drame, c'est que quand on coupe un arbre pour faire du bois, ça grince quelque peu. C'est un peu le paradoxe. On aime les arbres, on n'aimerait pas les couper, et pourtant, si l'on veut du bois, il faut parfois aussi en couper.
Un grand merci, Alain Baraton, jardinier en chef du domaine national de Trianon et du Grand Parc de Versailles. Et puis donc, je renvoie les auditeurs à votre dictionnaire amoureux et illustré des arbres qui est paru chez Plon. Et on va vous retrouver d'ailleurs, on va vous retrouver demain à l'antenne de la matinale d'Inter à 7h20 pour votre chronique La Main Verte. Vous écoutez Une Semaine en France, Juliette Gou à la réalisation, Frédéric Barrère à la rédaction en chef. Un grand merci à Laura Dumez et Romain Bonifaci qui m'ont aidé à préparer l'émission. Voici les Alabama Shakes sur France Inter. Bienvenue, 18h51. Got the hope.
Old on, c'était les Alabama Shakes sur Inter. La suite d'une semaine en France, on part en région.
France Inter, le 18-20, Éric Delvaux.
L'actualité d'ici et d'ailleurs, actualité en région avec l'indispensable concours des radios du réseau. Ici, nous sommes en ligne avec les journalistes d'ici Auxerre, ici Pays Basque et ici Auvergne. Delphine Martin, Bichente Vrignon et Emmanuel Moreau, bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Aux alentours d'Auxerre, Auxerre et ses alentours, Delphine Martin, les vignerons redoutent cette période du printemps, que ce soit dans le Chablisien ou bien dans le vin, les vins de l'Auxerrois, tous redoutent le gel et la grêle.
Et oui, les vignerons de Lyon sont un peu traumatisés hein, parce que les épisodes climatiques intenses se sont succédés l'année dernière. Il y a eu du gel en avril, il y a eu plusieurs épisodes de grêle et puis beaucoup de pluie tout au long de l'été, ce qui a entraîné des maladies. Ici, en 2024, certains viticulteurs ont perdu jusqu'à 90% de leur production. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'angoisse cette année. Pour l'instant, heureusement, rien de dramatique. On a sorti les dispositifs anti-gel une fois ou deux dans certaines parcelles. Il y a une dizaine de jours, mais aucun dégât n'est à déplorer.
Vous venez de parler de dispositifs anti-gel, Delphine, ça ressemble à quoi ?
Alors, pour lutter contre le gel, il y a beaucoup de méthodes. On peut asperger les plants avant le gel pour enfermer le bourgeon dans un cocon de glace. C'est assez spectaculaire. On peut chauffer la vigne aussi, soit avec de grosses bougies, soit carrément avec des câbles chauffants. Mais ces dispositifs sont coûteux, évidemment. À Chablis, c'est un investissement envisageable, notamment sur les parcelles classées premier cru ou grand cru. Mais dans d'autres vignobles, à Auxerre, à Vézelay, où la bouteille se vend moins cher, eh bien ce sont des méthodes qui ne sont pas accessibles. On peut donc aussi assurer les vignes, mais là encore c'est coûteux, les indemnisations sont jugées décevantes par les professionnels. Alors ces jours-ci, dans Lyon, comme dans toute la Bourgogne viticole, les vignerons surveillent les prévisions météo et surtout, ils croisent les doigts.
Les yeux au ciel, effectivement. Merci beaucoup Delphine Martin. Nous partons au Pays Basque, Bichente Vrignon. Ces jours de fête et donc de revendications aussi pour les écoles de langue basque.
Oui, Rewatch, c'est la fête des Ikastola, les écoles en langue basque. Elle est célébrée chaque année depuis 1984, le deuxième dimanche de mai. Aujourd'hui, au Pays Basque, il y a 51 000 locuteurs. C'est à peine 21% de la population, mais toutes les enquêtes montrent un fort attachement à la langue. Le nombre de pratiquants remonte chez les plus jeunes et à la rentrée de septembre, pour la première fois, le nombre d'élèves scolarisés en langue basque en maternelle a dépassé celui des élèves scolarisés en français. Les 4300 élèves des Ikastola suivent un cursus entièrement en langue basque. Le lycée a ouvert ces dernières années une filière technologique et professionnelle, toujours en euskara. Le programme de la fête des Riouratch a été présenté hier. L'idée, c'est de recueillir des fonds pour financer ces écoles. Leur croissance ne s'est jamais interrompue depuis un demi-siècle. Ces dernières années, un quatrième collège en langue basque a été construit et une école a ouvert. Vous avez parlé revendications. Le combat en cours en ce moment, c'est le bac en langue basque après le brevet. La possibilité de passer les épreuves de maths, d'histoire ou de physique-chimie en langue basque. Des négociations sont en cours avec le cabinet d'Elisabeth Borne.
Le bac en langue basque et pourquoi pas, effectivement. Merci Bichente Vrignon. Nous partons en pays d'Auvergne, à Issoire, près de Clermont-Ferrand. Emmanuel Moreau, pour le premier mondial de la truffade. D'abord, rappelez-nous ce qu'est précisément une truffade.
Alors, je suis sûr que ceux qui connaissent ont déjà dressé l'oreille en entendant le mot. Et ceux qui ne connaissent pas, eh bien, malheureusement, il y en a quelques-uns, vont découvrir ce plat typiquement auvergnat et très simple. Des pommes de terre découpées en rondelles, de la tomme fraîche, une grande poêle tapissée d'un peu de lard, un peu d'ail et l'affaire est faite. Alors ça, c'est la base. Évidemment, il y a des variantes avec d'autres ingrédients, mais surtout pas de truffe. Attention, truffade, ça vient de truffa, pomme de terre. En occitan, c'est un plat typiquement rustique qui était emporté par les bergers en estive, en particulier dans le Cantal. Ils prenaient avec eux des patates et ils ajoutaient un petit peu de la pomme qu'ils venaient de fabriquer.
Et alors cette truffade, on en mange donc un peu partout en Auvergne, mais il n'y avait jamais eu jusqu'à maintenant de concours.
Ah oui, un oubli qui sera réparé demain lors du salon Festif Fromage. À Issoire, 12 candidats ont été présélectionnés, des professionnels. Du petit restaurant de village au chef étoilé, préparation de la truffade en public, ça sera entre 14h30 et 17h. Et donc un jury sélectionnera la première meilleure truffade, titre hautement honorifique. Après, je vais te rendre la bonne truffade, il y en a partout en Auvergne, tout le monde a son adresse. Eric, je vous promets que si vous venez à Clermont, on pourra se régaler.
Allez chiche, merci beaucoup. Et merci à tous les trois, c'était le Multiplex, l'actualité d'ici et d'ailleurs avec le réseau ici, Ex-France Bleu. À suivre, le journal de 19h et puis à 19h20, ce sera le téléphone sonne consacré au rapport que les Français entretiennent avec leur voiture. On va parler de nostalgie, ces voitures de notre enfance qui ont été parfois un gros marqueur de notre vie. On peut presque parler d'intimité. À tout de suite.